Merci pour ce temps qui nous a rappelé toutes les dimensions de l'œuvre du Seigneur, cette œuvre universelle pour tout peuple, toute langue, toute nation, cette œuvre qui inclut notre passé, notre présent, notre avenir. Nous allons maintenant méditer un texte qui nous ramène plus sur le particulier de notre vie, de la relation que le Seigneur Jésus veut avoir avec nous. Mais nous savons que lorsque nous rejoignons ces choses particulières et profondes, c'est une autre manière aussi de rejoindre l'universel. Et je vous invite donc à lire quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, les versets 40 à 42. C'est la rencontre de Jésus avec celui qui deviendra l'apôtre Pierre. Il ne l'est pas encore, Jésus le lui annonce. Jean 1, versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre ou roc. » Et nous lisons un deuxième texte, cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse. C'est une promesse du Seigneur Jésus à ceux qui tiendront jusqu'au bout. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Jusqu'ici, nos lectures. Vous arrive-t-il de vous demander quel regard on porte sur vous ? La question est redoutable, nous le savons tous. Nous sommes tous sensibles à l'image que nous donnons. Être apprécié, sentir que nous comptons pour ceux qui nous entourent, peut nous donner des ailes. Au contraire, avoir l'impression d'être mal vu ou d'être transparent peut nous décourager, nous insécuriser profondément. Le regard des autres compte, c'est indéniable. Vous arrive-t-il de vous demander plus précisément quel est le regard que portent sur vous ceux que vous aimez ou ceux que vous estimez particulièrement? Cette question est encore plus cruciale, encore plus sensible. Car si l'on peut tenter de relativiser quelque peu la force du regard des autres en général, le regard de ceux que nous aimons ou qui ont de la valeur pour nous a une force, un impact incontournable. Vous arrive-t-il de vous demander quel est le regard que Dieu porte sur vous? La question est encore plus importante, car le regard de Dieu, c'est sa vérité sur notre vie. C'est ce qui donne ou qui ne donne pas une perspective à cette vie. Un regard positif du Seigneur qui approuve, qui encourage, donne une magnifique espérance. Un regard négatif qui condamne ou désapprouve est une fermeture, une impasse pour notre vie. Car le regard de Dieu a ceci de particulier qu'il détermine le cours des choses. Il n'est pas une simple opinion, il est créateur, il est décisif de ce qu'il advient de moi. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qu'il pense de nous. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir la façon dont il nous considère. Comment donc nous représenter le regard de Dieu sur nous? Le texte que nous avons lu nous donne une clé. Cette première rencontre entre Simon-Pierre et Jésus est, vous l'aurez remarqué, une rencontre où beaucoup se joue dans les regards, dans le regard. Lorsque André conduit son frère Simon à Jésus, Jésus, nous a-t-il dit dans le texte, regarde Simon, pose son regard sur Simon et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, désormais tu seras appelé Pierre ou Roc. Nous avons dans ce récit plus qu'un regard de Jésus sur un homme en particulier. Je crois que ce récit est aussi une illustration de la façon dont le Seigneur s'approche de nous, dont le Seigneur nous considère. Jésus est venu pour nous révéler pleinement qui est Dieu. C'est ce que nous avons lu dans le prologue de l'Évangile selon Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique est celui qui nous l'a fait connaître. Eh bien, nous découvrons ici quelque chose du regard de Dieu sur nous. Ce regard de Jésus sur Pierre embrasse le présent, tu es Simon, le passé ou l'histoire, fils de Jonas, et l'avenir, désormais, tu seras Pierre, tu seras Roc. Et au travers de Pierre, c'est à nous tous qu'il dit, toi aussi je te vois et je te connais personnellement. Je sais exactement d'où tu viens et ce que cela signifie, et j'ai des choses en réserve pour toi. Même si ces choses, bien sûr, ne sont pas les mêmes que pour Pierre. Explorons donc d'un peu plus près les perspectives qui nous sont données ici. J'aime bien le fait que Jésus ici casse l'ordre chronologique et commence par désigner Pierre par le présent plutôt que par le passé ou l'avenir. Heureusement que Jésus ne dit pas « Ah, voilà le fils de Jonas, Simon que j'appellerai Pierre !» Car le pauvre Simon se serait trouvé alors comme pris en sandwich, écrasé, étouffé entre son père et Jésus. Il ne serait qu'un nom sans consistance entre les deux. Jésus tient à lui dire « Tu es Simon ». Il s'adresse à lui comme une personne unique. C'est lui qui l'accueille et non le fils de son père. Et cela, il tient à le dire d'emblée. Lorsque Jésus nous dit « tu », c'est un vrai « tu » qu'il nous adresse. Son intérêt pour nous n'est pas un intérêt pour le fils d'eux ou pour la fille d'eux ou le frère d'eux ou la sœur d'eux. C'est de nous personnellement qu'il s'approche. C'est vers nous personnellement qu'il porte son intérêt. Mais Jésus ne dit pas non plus « Ah, voilà celui que je vois déjà comme pierre, comme roc et comme rocher. » Comme si la seule valeur de Simon était le projet formé sur lui. Cela aussi, ce serait difficile, car cela inscrirait la vie de Simon sous le signe de la performance. Il ne deviendrait acceptable que lorsqu'il s'approcherait du but fixé par Jésus. Simon serait un petit peu comme ses enfants, écrasés par des attentes très précises et très fortes de leurs parents et se sentant constamment en défaut parce que jamais tout à fait dans le moule de ce que l'on attend d'eux. Quelle tyrannie ce serait si Jésus ne nous aimait qu'à cause du projet qu'il a pour nous. Quel drame pour Pierre tout au long de sa marche avec Jésus s'il avait senti que Jésus ne l'aimait que comme rocher, que comme roc, lui qui était parfois bien fluctuant. Mais quel réconfort pour Pierre, fluctuant comme il l'était parfois, de se souvenir que Jésus lui avait dit « Tu es Simon, et c'est de toi, Simon, que je veux faire un roc. » Parce que là, Simon a le droit d'être Simon. Il peut se tromper comme Simon se trompe parfois. Il peut être soupolé comme Simon l'est parfois. Il peut avoir des élans qui ne sont pas toujours menés au bout comme Simon les a. Mais avec tout cela, il peut aussi se savoir aimé comme Simon, accompagné comme Simon, pris par la main pour aller plus loin et pour être conduit peu à peu vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose de plus constant. Tu es Simon. Certes, Jésus vise plus loin pour lui comme pour nous, mais c'est avec ce que nous sommes et dans un vrai accompagnement. Jésus sait très bien la distance au moment où il parle entre Simon, l'inconstant, et Pierre, le roc qu'il vise. Mais dans son « désormais tu seras », il y a plus qu'un constat, il y a aussi une parole qui dira son accompagnement. « Tu es Simon ». Que Jésus dise ça tranquillement, en toute vérité, mais avec amour et espérance, c'est un encouragement. C'est ici le regard de Dieu lui-même sur chacun de nous qui nous est renvoyé. Un regard qui nous permet à notre tour de dire « je suis » et de le dire tranquillement, de le dire sereinement. Dieu nous voit absolument tels que nous sommes. Y a-t-il une seule chose de nous qu'il ignore ? Il nous sonde jusque dans nos pensées, dans nos motivations les plus secrètes. Et pourtant, il ne désespère pas de nous, il voit du chemin à faire avec nous. Il ne nous dit pas « mon pauvre Simon, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ?» Mais il dit « tu es Simon, avec toi, tel que tu es, on va avancer. » Quand nous nous regardons au miroir des autres, nous avons tendance à nous comparer à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils ont. Ah, si j'avais son intelligence, ses facilités, sa capacité d'adaptation, ses talents. Et on passe son temps à envier les outils des autres et à se désoler de ne pas pouvoir faire les mêmes choses qu'eux. Le coup de miroir est d'ailleurs souvent assez faussé, car quand on envie ainsi les autres, on ne voit pas, par exemple, tout le travail qu'il y a toujours derrière les réussites des gens, même les plus doués. On ne prend que le résultat final avec l'impression que pour eux, ça s'est fait comme ça, tout est facile. Jésus, avec cette parole dite à Pierre, nous renvoie à nous-mêmes, en toute vérité et avec espérance. Tu es Simon, toi, fils de Jean, désormais tu seras Pierre le Roc. Ne passe pas ton temps en rêverie stérile ou en dépit douloureux à désirer les outils qui sont dans les mains des autres. Regarde ce qui est entre tes mains, prends ce que tu as et on va travailler ensemble. C'est toi qui m'intéresse. Tu n'es ni moins grand ni moins aimé que les autres. Je t'aime toi, c'est avec toi que je veux faire quelque chose de valable et de beau. Jésus nous dit « toi » et nous disons parfois « et lui ». C'est un jour d'ailleurs ce que Pierre a fait. Jésus parlait à Pierre de ce qu'il voulait faire avec lui et Pierre a eu ce même réflexe. Et lui, qu'est-ce qui va devenir de lui ? En se tournant vers un de ses collègues. Et Jésus a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Mais quand Jésus dit toi, ce n'est pas juste dans l'instant d'aujourd'hui. Le tu qu'il nous dit, comme il le fait à Pierre, inclut aussi notre cheminement. Tout ce qui nous a conduit jusqu'ici. Et c'est pourquoi il ajoute, « Tu es Simon, le fils de Jonas. » Jésus ne gomme pas ces liens si importants qui ont contribué de faire de nous ce que nous sommes. La Bible n'oublie jamais que nous sommes reliés. Jésus lui-même est présenté à deux reprises dans les évangiles, dans la chaîne d'une généalogie. Et qu'il n'ait pas été le fils biologique de Joseph ne change rien. Le parent, c'est celui qui accompagne, qui éduque, qui forme pour la vie. Jésus, dans son humanité, a été lui aussi formé, accompagné par son père Joseph, par sa mère Marie. Nous sommes reliés. C'est une source d'expérience heureuse, structurante, un enracinement où nous avons reçu. C'est aussi parfois, cela peut être aussi, peut-être aussi parfois, un lieu de frustration, une source de carence qui laisse leurs traces. Jésus n'élude pas cette réalité. Dans son coup de miroir sur Simon, il l'invite à intégrer. Il est le fils de Jonas, car c'est sa réalité. Là encore, inutile de rêver à autre chose. Je crois que c'est juste intéressant de temps en temps de nous rappeler que nous sommes fils de nos parents. Ceux qui parmi nous ont eu un milieu familial aimant et équilibré, ont d'abord une dette immense de reconnaissance envers leurs parents et envers Dieu. C'est un capital immense qui leur a été donné, et pour la vie, cela vaut la peine d'y penser. Et ça vaut la peine aussi d'exprimer de temps en temps, un moment ou un autre, un merci acquis de droit. Ne prenons pas pour acquis ce que nous avons reçu. Ne considérons pas comme normal ce que nous avons reçu si nous avons bénéficié d'un bon cadre familial. J'ai lu ces jours-ci le témoignage de Pierre Drahi, qui est un enfant d'une famille juive, qui a été sauvé d'une rafle par les pasteurs de l'église du Tabernacle ici en 1943 et qui a été recueilli au Nifleury pendant la guerre. Après la guerre, il est pupille de la nation et il raconte la difficulté à se construire sans parents. Il raconte la fragilité intérieure, les manques. Et entre autres, il raconte qu'un soir, dans le dortoir où il était, quand elle avait 5-6 ans, une monitrice qui surveillait le coucher des enfants lui a juste fait une bise sur le front en lui disant « Bonne nuit, mon chéri ». Il écrit « Ce moment a été mon premier moment de joie, de tendresse, d'émotion. Ce baiser m'a marqué. J'étais un petit garçon que quelqu'un dorlotait. » Attendre 5-6 ans pour découvrir une fois ce que cela veut dire. Ça nous rappelle quand même que certaines normalités, ça semble normal d'être accueilli, d'être aimé dans une famille, certaines normalités, entre guillemets, sont de grands cadeaux. En être privé fait un vide immense. Alors quand nous nous voyons fils d'eux ou filles d'eux, évitons de prendre le miroir grossissant sur les défauts et les inévitables limites de nos parents. Essayons aussi de penser à ce qu'ils nous ont apporté, transmis, communiqué comme base et qui nous permet de vivre aujourd'hui notre vie personnelle. Mais il arrive aussi qu'être fils ou fille d'eux implique des blessures, des douleurs. Et quand ça arrive, ce sont des choses profondes. Pour certains, ce sont des plaies qui sont toujours à vif ou qui demandent du temps, du travail pour cicatriser. Si tel est notre cas, cette parole de Jésus peut nous aider, même si elle n'est pas, bien sûr, un remède miracle immédiat. Elle nous dit, quand il nous dit « Tu es Simon, fils de Jonas », elle nous dit qu'il sait très bien aussi les blessures, les faiblesses, les difficultés dont nous avons pu hériter par notre passé. Mais ces choses, pour lui, ne représentent pas un obstacle pour s'intéresser à nous, pour nous appeler, pour nous aimer, pour nous accompagner loyalement et fidèlement, pour nous faire grandir. Et puis surtout, Jésus nous rappelle que Simon est d'abord Simon avant d'être fils de Jonas. Le « tu » qu'il nous dit est un « tu » plein d'espérance, mais aussi de responsabilité. Car il y aurait un danger à se complaire dans notre identité de fils d'eux ou de fille d'eux. Soit s'y complaire pour s'y installer douillettement quand c'est confortable, et nous laisser porter, soit pour faire de tous les manques de cette réalité une ornière démobilisante dans laquelle on retombe sans cesse et qui nous démobilise pour faire ce que nous pouvons faire et apporter ce que nous pouvons nous-mêmes apporter. C'est à Simon que Jésus a dit « tu ». Un peu plus tard, il lui demandera d'ailleurs de quitter père et mère pour le suivre personnellement. Simon est pour une part le fils de Jonas. Mais il n'est pas que le fils de Jonas, il est d'abord Simon. Nous sommes plus que ce que l'on a fait de nous. Dans toute situation, il y a ce que nous pouvons être avec l'aide et la présence du Seigneur à nos côtés. Comme quelqu'un a dit, si je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, je suis responsable de la tête que je fais. Ça, c'est un peu de sagesse populaire, mais de temps en temps, c'est bon de l'entendre. C'est une bonne maxime. Elle nous rappelle que nous ne nous réduisons pas à une série de déterminations. Mais la parole de Jésus est aussi « tu seras ». Et plus spécifiquement, « tu seras pierre », c'est-à-dire « tu seras roc solide ». Le regard de Jésus est un regard qui ouvre un avenir, qui donne des perspectives. Simon, nous le savons, avait de vraies limites. Jésus, en s'approchant de lui, n'a pas voulu souligner ses limites qu'il connaissait, mais il a préféré souligner le potentiel qu'il voyait en Pierre et l'avenir qu'il lui ouvrait. Ce n'est pas forcément comme cela que nous imaginons le regard de Dieu sur nous. Nous pensons souvent au regard de Dieu sur nous comme un regard qui relève nos fautes, qui relève nos manques, qui relève nos lacunes. Le Seigneur est un Dieu saint, nous sommes pécheurs. Le Seigneur a ses exigences morales et nous en sommes si loin. Le Seigneur a ses plans, ses projets, ses œuvres à accomplir et nous sommes si insuffisants pour ces choses. Jésus appelle Pierre en lui disant « Tu seras Pierre le roc ». Tout le monde savait que Pierre était tout sauf un roc. On le connaissait bien, un homme de bonne volonté, mais souvent impulsif. Des réactions capables à tout moment du meilleur et du pire, de vraies qualités, mais en même temps souvent les défauts de ces qualités. Avec lui, rien n'était vraiment stable, rien n'était absolument acquis. Et Jésus lui dit, tu seras roc. Le regard de Dieu voit plus loin pour nous. Le regard de Dieu ne se bloque pas à ce qui ne va pas. Et je trouve que c'est très important pour nous d'y penser. Jésus, tout en étant conscient des limites de Pierre, a su miser sur le potentiel de cet homme, a su voir la transformation qu'il pourrait opérer en cet homme. Et c'est une attitude constante de Jésus dans ses relations. Il ne s'arrête pas simplement au mal, il ne s'arrête pas simplement à ce qui ne va pas, il ne se laisse pas aveugler par ce qui ne va pas, il voit plus loin. Il voit ce qu'il peut faire avec nous, ce qu'il peut faire en nous. Alors il faut quand même être clair. Ce texte où Jésus dit à Simon « Tu seras roc », ce texte ne nous enseigne pas que Dieu ne voit que du bien en nous, que Dieu ne voit que du potentiel, qu'il ne voit que du meilleur. Ce texte ne joue pas à la gonflette en nous disant « Il y a tellement de potentiel en toi, mise sur ce potentiel ». Jésus parle au futur. Il lui dit « Tu seras roc ». Et ceci à partir du présent, tu es Simon. Ce texte ne nous dit pas que nous sommes tous magnifiques, tous pleins d'un potentiel extraordinaire. Ce texte nous dit qu'il y a quelqu'un, le Seigneur, qui sait voir plus loin que nos fautes, nos faiblesses et les qualités aussi qui sont les nôtres, qui est prêt à travailler avec nous, qui est prêt à travailler en nous pour que nous devenions autre chose que ce qu'engendrent nos fautes ou nos limitations. Et cela, c'est infiniment précieux, parce que c'est réaliste et ça donne de l'espérance, les deux en même temps. Cela nous rejoint là où nous sommes, tout en regardant plus loin et en étant également engageant. Nous aurons toujours besoin du pardon de Dieu, c'est sûr. Nous avons et nous aurons toujours besoin de revenir à Dieu à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il désire de nous. Mais jamais, en faisant cette démarche, nous ne serons enfermés dans ce qui n'a pas été. Et c'est ça le regard de Jésus. Il n'enferme pas dans ce qui n'a pas été. Le pardon nous est donné en Jésus. Ce pardon rétablit la relation avec Dieu et en fait une relation sans entrave, sans reproche continuel. Mais ce pardon nous assure aussi l'accompagnement pour la suite et des perspectives qui vont au-delà de ce qui n'a pas été. Très intéressant de voir que dans le psaume 32, qui est un psaume qui parle du pardon de Dieu, après qu'il ait été question du pardon que Dieu donne, il y a une parole du Seigneur pour celui qui est pardonné. Et cette parole, c'est de dire « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et cette parole est très belle parce qu'elle nous dit qu'il y a toujours un au-delà du pardon. Il y a toujours une perspective pour après le pardon. Il y a toujours un accompagnement pour continuer lorsqu'on est pardonné. Et c'est ainsi que le Seigneur peut vraiment nous dire « Oui, tu seras ce que j'attends de toi. » Lisez la vie de Pierre, c'est ce que vous découvrirez. Il y a des moments très beaux, il y a des moments moins beaux, il y a le Seigneur qui pardonne, il y a la possibilité de repartir. Nous avons chacun à découvrir ce que cela peut signifier pour nous. Nous avons à découvrir dans la marche avec Jésus que nos limites peuvent être autre chose que des barrières qui nous empêchent d'avancer. Elles peuvent devenir parfois des orientations pour baliser notre chemin. Tu ne parles pas bien, n'est-ce pas peut-être le signe que tu dois surtout écouter ? Tu n'es pas un intellectuel, n'es-tu pas désigné pour ces actions concrètes qui sont tellement utiles, dont on a tellement besoin? Mais ces limites que nous avons peuvent devenir aussi, par le processus de transformation de notre vie dans notre marche avec Dieu, des lieux où nous allons expérimenter sa puissance et sa transformation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Pierre, l'impulsif, est bel et bien devenu roc. Il est bel et bien devenu, par l'action de Dieu en lui, ce qu'il n'était pas tout seul. Le regard du Seigneur qui voit plus loin peut devenir une action qui forme, une action qui transforme. Et c'est vraiment le rôle de son esprit dans notre vie. Tu seras roc. L'écart est important entre Pierre, le roc, et Simon, fils de Jonas. Et pourtant, Jésus dit à Simon, tu seras roc. Qu'est-ce qui permet de parler ainsi? Si Jésus peut dire avec force, tu seras Pierre le roc, c'est que son regard n'est pas un simple regard de spectateur sur Simon, ou n'est pas simplement le regard de quelqu'un qui fixe les normes, mais c'est le regard de quelqu'un qui s'engage aux côtés, qui s'engage aux côtés de Simon dans la perspective qu'il lui trace pour aller de Simon jusqu'à Pierre le roc. La force de « tu seras Pierre le roc », c'est une promesse, c'est un engagement de Jésus. Et cet engagement, Jésus l'a manifesté pendant toutes ces années où Simon a été à ses côtés, toutes les années de formation où Simon a été disciple. Il a été là, à ses côtés, pour lui apprendre dans toutes sortes de situations de vie qu'ils ont partagées ensemble. Cet engagement, Jésus l'a aussi affirmé. Par exemple, il a dit à Simon, et ce n'était pas juste au moment crucial qu'il lui a dit, « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » C'est une autre forme de l'engagement de Jésus à propos de Simon. Il l'a fait tout spécialement avant les moments douloureux de la Passion où Pierre allait renier le Seigneur. Et puis cet engagement, Jésus l'a affirmé lorsqu'il est remonté au ciel, en disant à Simon et à tous les autres, « Mais je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à la fin des temps, oui, mais aussi jusqu'à la réalisation du but très personnel qu'il a pour chacun de nous, but qu'il a exprimé à Simon en lui disant, « Tu seras roc. » Ce « tu seras » est une expression de l'engagement du Seigneur lui-même. Ce futur dit fortement que le Seigneur va être là, il va tout mettre en œuvre pour que ce qu'il dit, ce qu'il annonce, puisse vraiment se réaliser. Ce « tu seras » demande aussi du temps, demande aussi un engagement, un processus. Et dans ce processus, nous sommes nous aussi impliqués, nous sommes nous aussi partenaires. Il s'agira pour nous d'entrer dans la perspective que Jésus désire de nous, cette perspective que nous soyons ses disciples, que nous marchions avec lui jour après jour, que nous nous nourrissions de lui, que nous trouvions toutes nos sources en lui, que nous nous laissions aussi conduire par ses objectifs pour nous. Nous sommes aussi impliqués. Il y a un engagement pour nous, tout comme il y a eu un engagement pour Pierre. Et sur cette question de la nouveauté que le Seigneur fait pour nous, il est rappelé quand même dans le livre de l'Apocalypse, dans cette promesse que nous avons lue, « À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. » À celui qui vaincra, ce qui veut dire qu'il y a eu des luttes, qu'il y a eu un engagement à suivre régulièrement avec le Seigneur jusqu'au bout, et à ce moment-là, à celui qui vaincra par toute la force du Seigneur qui lui aura été donnée jour après jour, mais aussi dans cet engagement qui aura été le sien, à ce moment-là, le Seigneur manifestera toutes les ressources encore plus amples qui sont les siennes, avec ce nom nouveau que personne ne connaît, qui est écrit sur un caillou blanc, qui dit vraiment tout ce que Dieu lui-même tient en réserve pour les siens, pour l'éternité. Alors acceptons pour nous aussi les étapes progressives, la marche régulière avec Dieu qui permettent d'arriver à cette victoire. Mais comptons sur le Seigneur, il ne nous laissera pas tomber. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. Tu seras appelé roc. Le regard du Seigneur est ce regard d'espérance. Comptons sur ce regard et avançons résolument avec confiance. Amen.